je vais vous présenter une illustration de l'utilisation de ces données à travers la présentation d'un premier projet qui est un partenariat avec des chercheurs de la Fondation Santé des étudiants de France, dans lequel on a essayé d'améliorer, enfin l'objectif c'est d'améliorer le repérage des élèves en situation de handicap par autodéclaration, donc dans une perspective inclusive, dans le dispositif en classe. Et donc ça, c'est une question qu'on se pose depuis, dans laquelle on travaille depuis longtemps dans le réseau notamment HBSC, donc autour de la mesure du handicap dans ce type d'enquête. Donc, comme on l'a vu, le dispositif en classe permet de collecter vraiment de nombreuses données sur le bien-être et la vie de l'élève, donc des élèves qui sont scolarisés en milieu ordinaire, donc ce qui inclut des élèves en situation de handicap scolarisés en classe ordinaire. Et donc, de ce fait, permet potentiellement de produire des connaissances sur les comportements de santé, le bien-être des élèves en situation de handicap. Et ça, c'est une opportunité unique de pouvoir documenter l'école inclusive. Donc, l'école inclusive, ça correspond en fait à la scolarisation, à une scolarisation de qualité pour tous les élèves, incluant des élèves en situation de handicap. Donc, ce qu'on sait au sujet de la scolarisation des élèves en situation de handicap, eh bien, c'est qu'ils sont de plus en plus nombreux depuis le début des années 2000 à être donc scolarisés en milieu ordinaire et en classe ordinaire. Donc, il y a des données qui sont disponibles de l'Éducation nationale sur les effectifs, avec des effectifs qui augmentent de façon très régulièrement et de façon importante. Donc là, il s'agit des effectifs d'élèves en ULIS. Mais par contre, il y a un manque de données sur la qualité de cette scolarisation et du point de vue de l'élève. Mais un défi, en fait, dans l'enquête en classe, l'enquête HBSC, eh ben, c'est de repérer les élèves en situation de handicap. C'est un défi de par d'abord les contraintes qu'impose le protocole notamment international de l'enquête. Alors, c'est un défi aussi de par l'auto-questionnaire, le fait que ce soit les élèves qui déclarent. Des protocoles internationaux qui imposent des contraintes d'indicateurs, de longueur de questionnaire, de temps de passation. Et c'est un défi aussi parce que, de par la définition du handicap en soi, puisque c'est un concept qui est multidimensionnel. Et donc, je vais revenir là-dessus juste après. Donc, le handicap fait l'objet d'un consensus international depuis le début des années 2000, notamment avec l'apparition de la classification internationale du fonctionnement par l'OMS, qui a notamment donné un modèle théorique qui permet de définir le handicap, et donc qui définit le handicap, les situations de handicap, comme les conséquences d'un problème de santé sur des fonctions organiques, des structures anatomiques, sur les activités de la vie quotidienne et sur la participation à la vie sociale. Donc, le handicap qui est défini à travers différents domaines. Et ce concept multidimensionnel, il a influencé de nombreuses législations dans beaucoup de pays, et notamment en France, avec la loi du 11 février 2005, qui reprend dans la définition qu'elle donne du handicap, ces différents domaines en termes de limitation d'activité, de restriction de participation et d'altération des fonctions dans différents domaines. Donc, l'objectif de ce projet-là en particulier, donc, qui est une collaboration avec la Fondation Santé des étudiants de France, était d'améliorer les instruments de mesure du handicap et les limitations qu'il peut y avoir dues à l'auto-questionnaire afin de mieux identifier le vécu et les besoins de ces élèves. Donc, dans l'enquête en classe, donc, il y a trois indicateurs, trois critères différents qui permettent de mesurer le handicap. Donc, un premier critère qui permet d'identifier des élèves porteurs d'une maladie chronique ou d'un handicap, donc à travers un seul item qui est indiqué sur la diapo. Donc, il s'agit d'un item développé par le réseau international HBSC au début des années 2000 et qui demande à l'élève s'il est porteur d'une maladie chronique, d'un handicap, diagnostiqué par un médecin en donnant un certain nombre d'exemples. Donc là, il s'agit d'une approche qui est générique, donc qui ne donne pas de liste exhaustive de toutes les maladies chroniques et de handicap, mais par contre qui donne un certain nombre d'exemples. Et ça, on sait maintenant que donner quelques exemples, ça peut influencer les réponses. Donc cet item, il est pas parfait. Et il est utilisé notamment par. Il est posé. Donc, il est optionnel dans le protocole international HBSC. Donc, il n'est pas obligatoire de l'inclure dans le questionnaire. Mais de nombreux pays l'utilisent pour rapporter notamment alors, ce n'est pas l'objectif premier, mais pour rapporter des prévalences d'élèves en situation de handicap scolarisés dans leur pays. Et donc, là, on voit toute. L'hétérogénéité et la difficulté d'interpréter un petit peu la variabilité dans les prévalences entre les pays dans ces pourcentages qui sont très variables d'un pays à l'autre. Mais cet indicateur, il est aussi surtout utilisé pour rapporter différentes issues comportements de santé, issues de santé entre les deux groupes d'élèves, donc ceux porteurs de handicap et les autres. Et donc là, quels que soient les pays, donc ça, c'est un travail qui est un peu plus ancien, qui était basé sur les données HBSC 2006, et donc où on regardait la prévalence d'élèves victimes de harcèlement scolaire, donc chez ceux sans handicap en gris, et donc chez ceux qui rapportaient être porteurs d'un handicap ou une maladie chronique en jaune. Et donc dans tous les pays, ici, on voit que la prévalence de harcèlement était supérieure chez ceux rapportant un handicap. Donc cet indicateur, il a des limites, mais il permet quand même de mettre en avant certains comportements dans ce sous-groupe, dans un sous-groupe d'élèves vulnérables. Donc, un deuxième indicateur qui est utilisé pour mesurer le handicap en classe, il s'agit d'un critère qui mesure les difficultés fonctionnelles. Donc là, on utilise une échelle, le Child Functioning Module, qui est une échelle validée, développée par des chercheurs qui travaillent sur la mesure du handicap en collaboration avec l'UNICEF, qui mesure des difficultés fonctionnelles dans 11 domaines différents. Qui est aussi plus dans le protocole international HBSC. Et voilà, et donc qui a aussi un certain nombre de limites, notamment, alors la version qui a été inclue dans le protocole international HBSC, elle a été modifiée de sorte qu'elle puisse être inclue dans l'auto-questionnaire, parce qu'initialement, elle est rapportée par un proxy, un parent. Et donc, dans cette version modifiée, on a aussi enlevé les items qui concernaient les troubles psychiques. Donc, elle ne couvre pas tous les troubles fonctionnels possibles. Et d'autre part, il y a une étude de validation qui a été publiée sur cette version modifiée et qui montre que certains items sont moins fiables que d'autres. C'est-à-dire que dans cette étude, ils ont poser la question aux mêmes élèves à 2 semaines d'intervalle. Et donc, sur certains items, les réponses sont pas, n'étaient pas très concordantes. Donc, un critère qui a aussi certaines limitations. Et enfin, un troisième indicateur qui mesure le handicap et qui est à travers les limitations d'activité. Donc là, c'est aussi un indicateur qui est validé, le GALI, qui est un indicateur issu de travaux de la Commission européenne, qui est posé dans de nombreuses enquêtes européennes, et donc qui interroge sur des limitations dans les activités que les adolescents font habituellement, causées par un problème de santé qui existe depuis au moins 6 mois. Donc, les spécificités du dispositif en classe en 2022, donc au-delà des élèves du collège, du lycée interrogés en classe ordinaire, comme on l'a déjà vu, nous avons inclus également un échantillon de jeunes pris en charge dans un établissement soins-études de la Fondation Santé des étudiants de France, qui sont des établissements qui assurent une prise en charge médicale pour certaines pathologies sévères, notamment psychiatriques, mais qui assurent aussi une continuité dans la scolarité, dans la scolarisation. Et donc, c'est des jeunes qui continuent leur scolarisation. Et donc là, ce sont 581 jeunes qui ont été inclus dans le dispositif en classe 2022. Et donc, à l'ensemble des jeunes en classe et de la fondation, l'auto-questionnaire incluait les trois mesures du handicap que je vous ai présentées. Et en complément, on a extrait aussi des informations des dossiers médicaux pour les jeunes de la fondation, et notamment concernant leur diagnostic, et donc ce qui a permis de classer les jeunes selon la nature de leur pathologie, à savoir psychiatrique ou d'autres natures, et donc c'est notamment des diabètes sévères, des obésités, voilà, et qu'on a labellisé pathologie somatique. Donc ici, vous avez une description des vraiment principales caractéristiques dans les deux échantillons. Donc à gauche, l'échantillon d'élèves en classe nationale et à droite, celui de la fondation. Donc dans celui de la fondation, il y a un peu plus de filles. Les jeunes de la fondation sont un peu plus âgés et donc sont plus souvent en lycée. Ils ont, alors je ne l'ai pas mis, mais ils ont en moyenne un peu de retard. Hein, ils ont une année en moyenne de retard scolaire. Et la troisième caractéristique, en fait, en classe, on mesure le contexte social à travers un indicateur de perception de l'aisance financière de la famille. Et donc, on voit que dans l'échantillon de la fondation, ils se perçoivent... Donc, il y a une aisance financière un peu plus faible comparée à l'échantillon national. Donc, dans ce projet, dans ce travail, on a fait plusieurs hypothèses qu'on a essayé d'explorer. Donc, une première hypothèse était que la prévalence de handicap déclaré était plus élevée parmi les jeunes pris en charge hospitalisés en soins et études dans la fondation, donc pour une pathologie psychiatrique ou somatique, comparée à la prévalence de handicap observée en milieu scolaire ordinaire. Et donc, cela, quel que soit le critère utilisé, et avec des estimations contrastées selon le type de pathologie. Et donc, on a observé qu'effectivement, c'était 18% d'élèves dans l'échantillon national qui déclaraient être porteurs d'une maladie chronique ou d'un handicap diagnostiqué par un médecin, ce qui correspond à peu près aux prévalences dans les autres études qui se basent sur ce type de critères, comparé à 37% dans l'échantillon de la fondation. Et donc, quand on regarde parmi les jeunes de la fondation cette même prévalence selon la nature de la pathologie, donc en haut, il s'agit des jeunes avec une pathologie somatique et ici avec une pathologie psychiatrique, donc ce sont 51% des jeunes de la fondation avec une pathologie psychiatrique qui déclarent être porteurs d'une maladie chronique ou d'un handicap, comparé à 32% parmi les jeunes avec une pathologie psychiatrique. Donc, ceux avec une pathologie psychiatrique sont moins nombreux à déclarer un handicap, à se considérer avoir une maladie chronique ou un handicap. Selon le deuxième critère, donc sont près de 49% des élèves dans l'échantillon national qui rapportent beaucoup de difficultés dans au moins un domaine fonctionnel, comparé à 68% parmi les jeunes de la fondation. Donc ici aussi avec des différences selon la nature, le type de la pathologie. Et enfin, suivant le troisième critère, de limitation d'activité, donc ce sont près de 24% des élèves du collège-lycée qui déclarent être limités dans des activités, comparé à 60, donc dans l'échantillon national, comparé à 78% parmi les jeunes hospitalisés. Et donc ici, sans différence notable selon la nature de la pathologie chez les jeunes de la Fondation. Donc voici, pour la deuxième hypothèse qu'on s'est posée, c'était, ben, on l'a déjà un petit peu vu jusqu'à présent, mais que la prévalence du handicap déclaré allait être différente selon le critère utilisé, avec une hypothèse d'imbrication entre les critères. Donc, c'est-à-dire que le critère 1, on s'attendait à ce que le critère 1 englobe les autres critères. Donc, la prévalence définie à partir du critère 1 soit la plus grande comparée aux autres. Mais cette hypothèse, finalement, elle était difficile à faire de par toutes les limites qu'on a vues propres à chaque indicateur. Et donc, c'est effectivement, donc quand on a regardé ici, donc, on a regardé la prévalence de handicap selon chaque indicateur, donc à gauche dans l'échantillon de la Fondation, à droite dans l'échantillon national, on voit des profils un peu différents. On voit que dans l'échantillon de la Fondation, et bien les critères, alors ça ne s'imbrique pas complètement, mais on a plus tendance à s'imbriquer, mais pas dans le sens attendu, puisque le critère 1 définit une prévalence qui est la plus petite, avec 37% des élèves qui rapportent un handicap. Et donc, et un profil dans le milieu ordinaire un peu plus complémentaire entre les critères, mais voilà, ce n'est pas tout à fait évident à interpréter. Il y a encore un peu de travail à continuer sur ces profils-là. Et une troisième hypothèse qui était que des élèves identifiés en situation de handicap vont être plus à risque d'expériences négatives en milieu scolaire que les autres élèves, et cela quel que soit le critère utilisé. Et donc, c'est ce qu'on a regardé ici. Donc, on a regardé en fait le risque que des élèves donc identifiés avec un handicap avaient d'être victime de harcèlement, victime de cyberharcèlement, de rapporter une faible satisfaction de la vie et de rapporter beaucoup de stress lié au travail scolaire comparé aux autres élèves sans handicap, pour faire vite, et cela selon les trois critères. Et donc, quels que soient les critères, finalement, on voit que les élèves qui déclarent en situation de handicap, ils sont plus à risque de tout ça, quel que soit le critère de définition du handicap. Donc, en résumé, ces résultats suggèrent en fait que le repérage des élèves en situation de handicap par auto-questionnaire varie en fonction du domaine mesuré et des profils des jeunes, qu'il y a une sous-estimation avec le critère 1, qui est le critère qui utilise une approche générique, notamment en ce qui concerne les pathologies psychiatriques, et qu'il y a aussi visiblement peut-être une surestimation avec le deuxième critère sur les limitations fonctionnelles dues aux limites de ce critère. Mais voilà, les travaux, il faut qu'on continue un petit peu à travailler sur ça pour affiner l'interprétation. On voit que les critères sont plutôt complémentaires, notamment en population générale d'élèves, mais que les élèves, finalement, repérés en situation de handicap, ils sont plus à risque d'expériences négatives en milieu scolaire ordinaire, quel que soit le critère qui était utilisé. Donc, en conclusion de ce travail-là, le repérage des élèves en situation de handicap dans les enquêtes par auto-questionnaire, elle permet quand même d'identifier des élèves vulnérables, même si les critères ne sont pas parfaits. Donc, vulnérables en termes de bien-être, de vécu scolaire et de harcèlement notamment. C'est important de produire ce type de données, de connaissances sur le comportement de santé et le bien-être des élèves en situation de handicap, qui permettent de documenter des pratiques notamment relatives à l'inclusion scolaire, et donc qui permettent derrière de mettre en place des actions adaptées qui considèrent le point de vue de l'élève. Et donc ce travail, il a été réalisé grâce notamment à nos partenaires de la Fondation Santé des étudiants de France, que je remercie.